marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Allons donc, messire, nous devons voir grand. Bâtissez aussi haut que votre science le permettra, messire. Montez, montez comme des âmes avides de contempler leur Dieu.
Notre-Dame de Paris au Moyen-Âge.
On exerce avant tout un métier et on essaye de bien le faire, que ce soit Notre-Dame ou un autre chantier, on essaye de respecter le métier avant tout. Ça fait déjà 5 ans, on a commencé en janvier 92. Ça fait, en ce moment, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le site. Mais à mon avis, même 10 ans ne suffirait pas pour restaurer tout Notre-Dame. Il faudrait beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que nous, on est un peu les infirmières du bâtiment, quoi. C'est vrai qu'on ne bâtit pas, on restaure. On essaye de se référer à ce que nous ont laissé nos anciens, de respecter le travail comme ils nous l'ont laissé. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'un bâtiment de cette taille, on en a très peu en France et dans le monde. On n'a jamais vraiment tout vu sur le chantier, quoi. Donc, tous les jours, on découvre quelque chose, tous les jours, on apprend. Et c'est ce qui fait l'intérêt du bâtiment.
Cette émission sera constituée d'archives. Celle-ci date du moment 1992 jusqu'au début du millénaire, de la restauration high-tech de la cathédrale à l'issue de laquelle elle était apparue, l'épiderme poncé, dépourvu de sa patine de prière et de son hall dansant. Et ce printemps, un nouveau chantier, on le sait, commençait. L'inachèvement perpétuel est le propre des cathédrales. Edgar Quinet imaginait un dialogue sur un échafaudage au XIIIe siècle. L'ouvrier demandait « Mais maître, quand aurons-nous fini ?» L'ouvrage est long, la vie est courte. Et le maître ne répondait rien. Le risque de destruction est également consubstantiel à l'histoire des cathédrales. Pour ne parler que de l'histoire contemporaine, Notre-Dame aurait pu être rasée pendant la Révolution. Et au lendemain de celle de 1830, une émeute en 1831 s'était attaquée au palais épiscopal, jetant les richesses de celui-ci, ses livres, jusqu'à ses pots de confiture, à la Seine. Et l'édifice lui-même aurait pu être livré aux flammes. Mais les cathédrales sont des organismes vivants. Au tout début du 19e, Chateaubriand craignait de les voir tomber en ruine, comme les monastères de l'Ancien Régime finissant. Et Michelet voyait Notre-Dame s'ensevelir dans une atmosphère de fin de monde, de tombeau. Mais le génie du christianisme, c'est d'être la religion, du dépassement de la religion. Victor Hugo vint et il transforma Notre-Dame en une machine à intégrer les temps, à s'envoler vers le futur. Nous parlerons demain de cette cathédrale toujours jeune, renouvelée du 19e siècle, mais aujourd'hui, la cathédrale du Moyen-Âge, dont la nef, qui nous étonne par sa hardiesse, s'est révélée assez solide pour tenir dans le drame d'hier soir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Alors, il faudrait d'abord dire que le site de Notre-Dame est essentiel. Avant Notre-Dame, nous sommes au carrefour, on en parlait hier, du Cardo et du Decumanus, les deux grands axes de la ville romaine. Et ce carrefour accueillait un temple gallo-romain. Notre-Dame étant accueillante à tous les amateurs de mystère, on croit volontiers qu'avant le temple, des autels étaient dédiés là à des divinités obscures. Ensuite, la première cathédrale mérovingienne sera édifiée, dédiée à Saint-Étienne. Et l'évêque de Paris des années 1160, un énergique quadragénaire, Maurice de Sully, décida, avec l'appui du souverain, de remplacer Saint-Étienne par Notre-Dame. La cathédrale de Paris commence à s'édifier quand sont entrepris d'importants travaux au Louvre par le roi et elle s'achève à peu près en même temps que la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. Bernard Fonkerny, architecte des monuments historiques.
Quand on monte sur les terrasses, quand on monte par exemple dans la Flèche, là on a une vision à la fois de l'édifice, sa situation dans l'île. C'est-à-dire que vous avez les bras de la Seine, on en a aussi là au nord, la pointe de la cité. Quand vous voyez la pointe de la cité, que de la Flèche vous regardez vers l'abside, donc vers l'est, et que vous voyez la terminaison de la couverture, l'abside arrondie, un peu plus loin, la pointe de la cité, de l'île de la cité, et puis le fleuve qui se réunit, les deux bras du fleuve qui se réunissent en un seul. Là, au niveau perception, au niveau composition paysagère, composition architecturale, tout ça est assez extraordinaire.
Qu'est-ce qui vous surprend le plus à chaque fois quand vous le découvrez ?
D'abord, à chaque fois qu'on y monte, on découvre toujours des points qu'on n'avait pas remarqués. C'est un peu complexe. Il y a à la fois le rappel permanent de ces hommes qui n'avaient pas de computer, mais qui avaient une telle connaissance empirique ou par l'expérience de la construction, car ils ont construit des choses ou même osées, avec des moyens simples, et qu'ils y soient arrivés sans difficulté majeure, sans pépin. Donc c'est déjà... Donc il y a les hommes qui ont fait ça. Et la manière dont ils s'y sont pris, ils l'ont fait. Ça, c'est un premier aspect des choses. Le second aspect, tout de même, l'architecture même, donc la volumétrie intérieure, la volumétrie extérieure, la perception de la ville par rapport à la cité, c'est bien le monument architectural dans la cité. Ça compte beaucoup. Il dominait toute la ville. Pensez au Moyen-Âge, on n'avait pas les Invalides, on n'avait pas la Tour Eiffel, on n'avait pas même Montparnasse, on n'avait pas Beaubourg. Donc c'était un monument qui dominait dans la silhouette de la ville. Hein. Donc c'est tout de même très important. Et puis alors, moi, il y a une chose qui m'émerveille vraiment, c'est que dans ces édifices, on a des problèmes de poussée de voûte à grande hauteur, etc., les contrebutements de ces poussées de voûte. Tout ça est fait à Paris avec toute une architecture de contrebutements, d'arc-boutants, qui sont architecturalement, physiquement magnifiques à regarder et qui techniquement sont également des merveilles de technique. C'est tout à même extraordinaire de voir qu'au XIIe, XIIIe siècle, ces hommes de l'art n'ont pas mis de superflu. Ils ont fait une épure, hein. C'est presque l'équivalent d'une épure. Aujourd'hui, un ingénieur, peut-être, avec tous les coefficients de sécurité qu'on doit respecter, etc., arriverait peut-être à une chose plus grosse, plus importante. Donc vous voyez, et ça, je trouve ça extraordinaire. Fait avec peu de moyens d'arriver à une perfection. Une perfection, une simplicité de moyens et une épure.
Une épure simple, des dimensions extraordinaires. C'est une émission d'Alexandre Hérault, lieu de mémoire sur France Culture. Dimension extraordinaire, oui, mais la singularité de Notre-Dame de Paris ne tient pas seulement à cela. D'ailleurs, toutes les cathédrales gothiques qui se construisent à ce moment-là ont chacune une singularité. Alors à Laon, il y a des bas-côtés simples. À Paris, il y a des bas-côtés doubles. À Senlis, il y a un déambulatoire avec des chapelles rayonnantes. Et à Paris, il y a un déambulatoire sans chapelle rayonnante. Ce qui unit quand même les cathédrales, c'est le principe qui les a fait bâtir. La présence, nous dit Alain Erland Brandenburg, grand spécialiste de ces édifices, d'un évêque.
Les cathédrales sont apparues à Rome, dans la civilisation romaine, où la cité, la ville, aujourd'hui, était l'élément essentiel. Il fallait donc, lorsque Constantin a reconnu le christianisme, il fallait donc installer l'évêque qui existait déjà à l'intérieur de la ville, et pas n'importe où, au centre de la ville. Et tout l'histoire de la cathédrale, c'est cette dialectique entre la ville et le peuple. Et l'évêque s'adressait de la cathèdre aux fidèles. La révolution gothique va apporter une transformation radicale dans l'aménagement intérieur. C'est non seulement un changement architectural, non seulement un changement stylistique, mais c'est un changement dans les rapports humains, le rapport de l'homme, du fidèle, de l'évêque avec Dieu, mais également un rapport des hommes entre eux. Dans la cathédrale gothique, et elles seront toutes ainsi, les deux tiers de la cathédrale sont réservés aux laïcs. C'était évidemment une révolution.
Bien, bien, bien. Combien de toises de longueur ?
52.
Ce n'est pas assez grand.
Mais, monseigneur, sous peine de venir heurter l'église Sainte-Marie et celle de Saint-Jean-le-Rond, sans compter les maisons innombrables qui, dans la cité, nous ne pouvons pas...
Mon patron, Sainte-Marie, Messire et aussi Saint-Jean-le-Rond pour faire place à Notre-Dame.
Et quelle dimension votre grandeur entendrait-elle donner à cette messe ?
65 toises, au moins, messieurs. Ceci est nécessaire pour que le plus grand concours de foule puisse venir adorer Dieu. Allons donc, messire. Nous devons voir grand.
Mais pour la hauteur, ceci va tout changer.
Combien aviez-vous prévu ?
14 toises sous les voûtes, 21 pour la façade.
Voyez-vous, messire, le nombre de toises que mesure une église sur le sol, c'est ce que je nommerais son denier au peuple. Et c'est au nombre de fidèles appelés à venir qu'on le doit mesurer. Mais le nombre de toises qu'elle comporte en hauteur, ah là, c'est son denier à Dieu. Lui seul est vénéré par l'élan de nos voûtes.
Vous n'allez pas voler notre Seigneur Jésus de quelques toises.
Ça, c'est une vieille chose retrouvée par Franck Olivard et Frédéric Martin qui ont préparé cette émission à partir de du stock des archives de l'INA. Nous sommes en juin 44 à la radiodiffusion nationale, juste avant la libération de Paris. Étonné par la taille, afin que le fidèle commence à se transformer en se disant, en entrant, mais comment ça peut tenir d'un côté la crainte de la chute et de l'autre l'émerveillement devant la solidité. Il y a deux grandes interprétations de l'architecture des cathédrales gothiques. Il y a celle d'André Chastel, classique, qui dit que se sont superposées des propositions techniques, des innovations accidentelle dont on l'a tiré un parti inattendu, notamment en Île-de-France, en intégrant les solutions de l'époque romane déjà expérimentées. Et ainsi, on est passé de l'arc d'ogive, connu dès le XIIe siècle, à la croisée d'ogive, et puis l'appareillage de pierres a changé avec des pierres plus grandes, plus sûres, et ainsi s'est mis au point de façon empirique l'ajustement des forces pesantes et des supports. Et puis, il y a une autre interprétation par Roland Recht, qui a succédé à André Chastel au Collège de France, et qui explique que les hommes du Moyen-Âge, certes, ne connaissent pas le calcul de la résistance des matériaux, ils ignorent le calcul en général, mais ils se transmettent ce qu'on appelle le quadrivium, quatre instruments de méthode, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie. Donc, ils connaissent la triangulation, la quadrangulation et cherchent la proportionnalité de l'édifice pour garantir sa solidité avec de plus en plus d'audace. Mais là, on parle des architectes, des ingénieurs, il y en a peut-être eu cinq à Notre-Dame de Paris sur près d'un siècle. Et les hommes de métier formés, qui forment une main-d'œuvre flottante, très demandée.
Monseigneur, je suis Thomas Damien, maître verrier. Le Breton, verrier de Quimper. Gauthier, de Tours, maître verrier.
Roland Boileau, syndic de la maîtrise des menuisiers.
Olivier de Bordeaux, verrier.
La lumière chantera.
Louis Lacnouille, syndic de la corporation des étuveurs.
Marc, de Pontouel, maître juré de la corporation des savetonniers.
Monseigneur, je suis Renaud Lebrac. Maître ferronnier, les ferrures et pentures sont exécutées à l'heure dite par les plus habiles de nos maîtres, nos apprentis et de nos valets, et de la grande force de Notre-Dame jaillira par le feu un cantique de métal à la gloire de Dieu et des saints.
Monseigneur, je suis Charles de Lille, syndic de la maîtrise des orfèvres de Paris.
Toujours la fameuse dramatique de juin 1944. Alors cette main-d'œuvre flottante et qualifiée vient d'un peu partout en France, voire de l'étranger. Une série de campagnes successives ont lieu pour permettre la construction. La construction se fait d'ailleurs sur plusieurs endroits simultanément. On peut avoir commencé le cœur et puis s'occuper de ce qui va se passer à l'est, de ce qui va se passer à l'ouest, le financement étant parfois obtenu grâce à l'arrivée de reliques opportunément transportées depuis l'Orient par les croisades et qui permettent un rebond des dons des fidèles. Mais revenons aux ouvriers, ce qu'aimait tant Charles Péguy, les ouvriers des cathédrales dans la dramatique de 44. On l'a dû évoquer, ce passage fameux de Péguy. Péguy voit des ouvriers malheureux un peu partout sur les chantiers de la France du Moyen-Âge, désespérés d'être confinés dans des tâches obscures, dévalorisées. Puis soudain, un apparaît avec un sourire joyeux. « Qu'est-ce que tu fais ? Je construis une cathédrale. »
Tailler une pierre à quadratise, comme on disait, c'est-à-dire au carré, et que les angles soient à joint vif, afin que le mortier soit réduit à sa plus simple expression, et que ça n'apparaisse pas comme une césure régulière. Et au milieu du XIIe siècle, avec l'époque gothique, il y a eu appel à ces professionnels. Ça a été un véritable problème. C'est-à-dire que les anciens tailleurs de pierre n'étaient pas encore accoutumés à cette exigence du maître d'œuvre.
On est entre industrie et artisanat.
Oui. Oui, plutôt du côté de l'industrie. Vous savez, pour faire le Concorde, on s'est pas adressé à des gens tout à fait secondaires. Il fallait des ingénieurs de très haut niveau. Construire une cathédrale, c'est la même chose, parce qu'on se trouve confronté à des problèmes qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, notamment poussé contre poussé, c'est-à-dire un équilibre extrêmement délicat à obtenir. Et s'il y a une erreur, la cathédrale peut s'effondrer.
Et puis on recherche des coûts les plus bas possibles, et c'est pour ça qu'on en arrivait à une certaine standardisation.
Oui, absolument. Il faut... Et je vais prendre un autre exemple. Avec une église romane importante, vous faites deux cathédrales. Parce que dans une cathédrale, le vide est plus important que le plein. Là, dans l'église romane, les murs sont pleins, les tribunes sont là, etc. Dans une cathédrale, notamment au XIIIe siècle, l'essentiel, c'est d'abaisser les coûts et donc de réduire la pierre. Et réduire la pierre, c'est un intérêt évidemment financier, mais c'est un intérêt pour les fondations. Ce sont des fondations en puits et non plus des fondations continues comme à l'époque romane. À la fin de l'an 1000, toutes les constructions étaient en bois. Les hommes du bois ont été majoritaires. Et les hommes de pierre sont arrivés parce que des commanditaires exigeaient qu'on construise notamment les églises en matériaux nobles, la pierre. On a mis au chômage une grande partie de ces charpentiers. C'est-à-dire, c'était un drame, comme encore une fois, on le vit aujourd'hui. Mais vous découvrez au fait des événements, et notamment les drames sociaux qu'on connaît malheureusement trop souvent, éclaire ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Il y a eu des grèves, il y a eu des évêques assassinés, des chanoines également, parce qu'il y avait des tensions sociales extrêmement fortes. Et notamment, la mise à l'écart est un phénomène très important.
La mise à l'écart des hommes du bois.
Des hommes du bois, parce que l'architecte est devenu un homme de la pierre. Et aujourd'hui encore, l'architecte et homme de pierre ne se mêle pas de la charpente, pour ne pas entrer en conflit avec les charpentiers, qui sont des gens d'ailleurs tout à fait extraordinaires, une compétence, il suffit de les rencontrer, de discuter avec eux, même s'ils sont souvent réservés sur leur connaissance, vous êtes des gens qui cumulent une connaissance qui remonte à l'an 1000.
Alors les hommes de la pierre, les hommes du bois, sans les hommes du fer, il n'y a pas les hommes du verre, les verriers.
Le fer, la Sainte-Chapelle, ne subsiste que parce qu'elle est métallisée. C'est-à-dire, on a introduit le métal, non pas de secondaire comme on l'a fait ensuite, mais essentiellement. C'est ce que j'ai appelé la pierre armée. Le fer est un matériau qui entre dans la structure de l'édifice. Et d'ailleurs, on a fait une découverte très importante, c'est que ce ne sont pas des fers qui sont créés avec des hauts fourneaux, mais des bas fourneaux, qui ont comme résultat de vous donner un métal qui est extrêmement court en longueur, 40 cm, 4 cm d'épaisseur, mais il ne rouille pas, et d'autre part, il ne se dilate pas. C'est-à-dire que son emploi avec la pierre ne pose pas de problème.
C'est une marge de l'histoire avec Alain Erland Brandenburg, comme tout à l'heure, elle est datée de 2011, alors puisqu'on est précis. En 163, visite du pape, ça veut dire que le chœur est commencé. En 182, l'autel, le maître-autel, est consacré. Et avant l'achèvement de 1240, la façade, elle est entreprise un demi-siècle après le départ des travaux, et le portail de droite réemploie des reliefs qui avaient été préparés dès le temps de Maurice de Sully. Et puis, la nef, pas de chapelle rayonnante à l'abside, un espace intérieur qui forme une sorte d'enveloppe continue, avec des tribunes à l'étage qui créent une grande animation dans la croisée, et un orgue des le XIIIe siècle, qui peu à peu s'agrandit, prend les proportions qu'on lui connaît. Dans quel état est-il aujourd'hui au XVIIIe siècle? Et les travaux de Cavaillé-Coll lui donnent sa plénitude symphonique au XIXe siècle. Pierre Cochereau en fut longtemps le titulaire. Le voici dans une improvisation de fête de Pâques.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Notre-Dame depuis le Moyen-Âge. Parlons un peu de l'époque classique. Le XVIIe n'aime pas forcément le gothique qu'il considère comme difforme. Et le XVIIe lègue à Notre-Dame de Paris, après le vœu de Louis XIII qui consacre la France à la Vierge, le 15 août, un monument central à l'intérieur de la nef.
L'intérieur de la cathédrale va être modifié très sensiblement au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, à l'occasion du vœu Louis XIII. C'est-à-dire que pratiquement son chœur va être complètement habillé, décoré à la mode de l'époque. Ce sera Robert de Cotte qui sera chargé de ce travail et qui le réalisera. Les travaux commenceront en 1699 et se termineront en 1714. Que reste-t-il de cette décoration ? Il en reste des éléments assez importants. Quoique Viollet-le-Duc, au nom de l'unité du style, ait enlevé un certain nombre de choses. Cependant, il reste tout le dallage du chœur, la mosaïque de marbre du sanctuaire, trois pièces essentielles et qui évoquent parfaitement le vœu Louis XIII, c'est-à-dire au centre du sanctuaire, la Pietà, c'est-à-dire cette Vierge qui reçoit le corps du Christ, et de chaque côté, les statues de Louis XIII et de Louis XIV. Il reste en plus les stalles qui ont succédé aux stalles du XVIe siècle. Ces stalles sont du début du XVIIIe et sont tout à fait remarquables. Viollet-le-Duc, lui, de son côté, va faire disparaître les placards de marbre. La Révolution avait au préalable enlevé tous les bronzes et toutes les grilles qui clôturaient le chœur.
Enfin, il y a aussi des enlèvements par l'Ancien Régime. Les gargouilles, par le cardinal de Noailles, elles seront remplacées par celles de Viollet-le-Duc. Et puis, la mise en blanc des fenêtres, parce qu'on n'aime pas trop un certain nombre de vitraux qui obscurcissent l'atmosphère. Heureusement, au XVIIIe siècle, quelques grands architectes comme Blondel et Soufflot commencent à admirer le gothique parce que ils estiment que les cathédrales réussissent l'association de la fonction à l'aspect et donc elles sont lisibles. C'est un système de construction qui dit ce qu'il est. On parlera demain du 19e siècle, de Hugo et de Viollet-le-Duc, mais Hugo, il aime bien les personnages modestes qui grouillent dans la cathédrale, qui en font la respiration profonde. Je vous propose de finir avec l'une d'entre elles, c'est la gardienne du Bourdon, interrogée en 1951.
Le premier Bourdon offert à Notre-Dame en l'an 1400 par Jean de Montaigu, frère de l'évêque Gérard, faisait à l'époque 6 tonnes. En 1682, on l'a refondu en y ajoutant or, bronze, objets précieux et bijoux, offerts par le roi, la reine et les grandes dames de l'époque. On a fait ce bourdon qui pèse 13 tonnes. Par son alliage or et bronze, le bourdon a un très beau son. Il rend le fa dièse en musique. Pour permettre à la cloche une oscillation, il a fallu construire la charpente que vous voyez là. Elle est toute en cœur de chêne. Elle va du haut de la tour jusqu'en bas. Tous les murs sont isolés, car avec le poids des 13 tonnes, les murs étaient ébranlés. Et vous voyez qu'il y a du jeu entre les poutres, ce qui permet à la charpente d'être flexible. C'est elle qui oscille et bouge avec la cloche. De cette façon-là, elle garantit les murs.
La voix que vous entendez est celle de la gardienne des tours de Notre-Dame, car les tours de Notre-Dame ont leur gardienne. Combien de marches montez-vous tous les matins, madame, pour prendre votre poste ?
Je monte 245 marches, jusqu'à la première galerie.
Et j'imagine qu'après ça, vous vous reposez sur votre plateforme ?
Non, je fais visiter le bourdon aux étrangers, ainsi qu'aux provinciaux et gens de Paris qui viennent le visiter. Mais j'ai chaque fois 25 marches à monter pour la visite du bourdon.
Que vous montez combien de fois par jour ?
Cela dépend de la clientèle.
Ça dépend des visites.
Oui.
Et ensuite ?
Ensuite, le soir, à 5 heures, à la fermeture, je monte 129 marches pour décharger les tours.
Qu'est-ce que ça veut dire, décharger les tours ?
C'est pour faire descendre les gens qui se trouvent sur la tour sud.
En somme, combien d'étages montez-vous et descendez-vous tous les jours ?
Je crois que cela représente à peu près 17 étages.
Eh bien, c'est beaucoup. Et en quoi consiste votre travail en dehors de la présentation du bourdon?
J'explique un peu le panorama de Paris, les monuments que l'on voit, qui sont et les gros édifices.
Est-ce que vous aimez votre métier?
Oui, parce qu'il est très sain. Et en même temps, je profite des ondes bénéfiques de Notre-Dame.
Ah, parce que Notre-Dame répand des ondes bénéfiques?
Oui, on le dit.
On le dit?
Oui.
C'est très bien.
Nous poursuivrons l'ascension de Notre-Dame comme Quasimodo. Demain, avec Jean-Michel Legnaud, en parlant du 19e siècle de la cathédrale parisienne. Franck Olivard, Frédéric Martin, Audrey Ripouille ont préparé cette émission avec, à la technique, Nicolas Delmas. Et chez vous, Mathieu Vidard.
Oui Jean, on va parler bugs numériques et robots maléfiques dans le dossier, et puis on parlera de la maîtrise du feu dans un instant à la une de la science. Voilà le programme de La Tête au Carré.
Merci à vous.